Homo urbanicus.
Éric Dauterre, bonjour. Voici quelques temps que notre émission n'avait pas franchi les frontières à la découverte d'une grande ville européenne. Alors voilà qui est fait, vous l'entendez derrière moi avec notre récente visite de la capitale danoise. L'occasion nous en a été donnée avec la nomination de Copenhague comme capitale mondiale de l'architecture en 2023, et ce par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, sous recommandation de l'Assemblée générale de l'Union International des architectes, l'UIA. Alors, c'est un partenariat entre l'UNESCO et l'UIA depuis 2018, par lequel l'UNESCO désigne, je cite, les villes hôtes du Congrès mondial de l'UIA comme capitale mondiale de l'architecture. Et Copenhague succède ainsi à Rio. Vous entendez derrière moi l'ambiance paisible qui règne à Tovernhaller, ce marché à ciel ouvert de Copenhague où les familles viennent se ravitailler et profiter d'un bon brunch au soleil. Si, si, il fait beau à Copenhague. Alors Copenhague est donc capitale mondiale de l'architecture. Et en la désignant comme telle, il s'agissait pour l'UNESCO, je cite, de mettre en valeur le rôle clé de l'architecture, de l'urbanisme et de la musique dans l'élaboration d'une identité urbaine et dans le développement urbain durable. Alors Copenhague accueille ainsi depuis 2023 une série d'événements et de programmes majeurs sur le thème « Avenir durable, ne laissez personne de côté ». La ville offrant toute une palette de réalisations qui s'étale depuis son apogée sous le règne de Christian IV jusqu'à nos jours, il nous a paru intéressant de rencontrer le directeur du Centre danois d'architecture, Kent Martinussen. On va le retrouver tout à l'heure. Alors, hasard funeste, le lendemain de notre départ de la ville, l'un de ses monuments emblématiques prenait feu. Nous en parlerons avec Philippe Poindron, qui connaît fort bien la ville. Pas de chronique transformation et permanence aujourd'hui, ni de Pascal Duc-Tertre. On le retrouvera à l'occasion d'une prochaine émission. Alors, on part à la découverte du hygge, un mot danois qui désigne cet art de vivre à la danoise. Et voyons comment il se transcrit dans le bâti. Homo urbanicus, c'est parti.
Homo urbanicus.
C'est dans l'immense entrée du moins immense, du non moins immense DCA, le Centre danois d'architecture, que nous rencontrons son directeur. Si je l'appelais DAC, ce serait mieux, c'est le Danske Architectural Center. Avant même la visite, on a aperçu de loin ce paquebot architectural posé au bord du canal. Mais ce qui pourrait être un énorme bloc de 28 000 m² édifié entre 2013 et 2018 est allégé par la répartition en multiples blocs de verre et d'acier et sa division en espaces. OAM, l'agence d'architecture qui l'a conçu et réalisé, décrit le projet de la manière suivante. Le projet BLOX, qui abrite le Danish Architectural Center, comprend des espaces d'exposition, des bureaux et des espaces de travail, un café, une librairie, un centre de remise en forme, un restaurant, 22 appartements et un parking public automatisé. Mais ce n'est pas le mélange acrobatique des usages qui définit ce projet. Sa réussite ultime réside dans la découverte de son propre site. Et c'est donc un geste architectural qui parle d'architecture. Mais on va laisser le directeur présenter son centre et se présenter lui-même.
Je m'appelle Kent Martinussen.
Alors on va réécouter parce qu'on n'a pas écouté sa présentation. Donc comme je le disais, on laisse le directeur présenter son centre et se présenter lui-même.
Je m'appelle Kent Martinussen, je suis architecte et le directeur du Centre danois d'architecture, le DAC, à Copenhague. Nous sommes sur le front du port à Copenhague, dans l'hypercentre du vieux Copenhague. Nous sommes dans un bâtiment que l'on appelle BLOX et c'est le siège du Centre d'architecture danois. C'est un architecte hollandais, Rem Koolhaas et Hélène van Loon, de l'agence hollandaise OMA.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? C'est une espèce de phare de l'architecture dans cette ville de Copenhague.
De l'extérieur, c'est un bâtiment minimaliste, majoritairement fait de vitrage vert, mais en réalité, il a un design très particulier, car il s'agissait de créer un édifice pour le centre d'architecture et donc de créer une expérience en traversant le bâtiment et en exposant l'architecture en tant que telle. Les architectes l'ont pensé comme une sorte de petit village dans un bâtiment. Et vous verrez que l'édifice a des hauteurs sous plafond impressionnantes et vous verrez que la circulation passe directement au travers de l'immeuble. Vous verrez qu'il s'adosse au front du port, comme le dit Rem Koolhaas, comme un palais vénitien. Vous verrez, en traversant l'exposition, qu'il y a un espace tel une piazza où vous pourrez vous poser en regardant la ville et ainsi de suite. Et lorsque, finalement, vous monterez en haut de l'immeuble, vous verrez que des gens y vivent, là-haut, et vous pourrez avoir une vue sur la cité. C'est en fait un bâtiment qui lui-même essaie d'être un médiateur de l'architecture en expérience face à face.
Allez, on y va, on vous suit.
Quand vous marchez dans l'édifice, vous vous rendez compte qu'il a différents matériaux au sol, qu'il a des espaces très variés, et c'est une sorte de boucle verticale. Allons dans le cœur du bâtiment. Quand OMA Hélène Van Loon, qui était architecte en chef de l'intégralité du bâtiment, elle a construit, elle n'était pas seulement préoccupée par le bâtiment et ses intérieurs, mais elle était aussi préoccupée par l'inclusion du bâtiment dans la matière ouverte. Et ils l'ont fait en construisant ce programme plutôt impressionnant d'environ 20 000 mètres carrés en le dissolvant dans des unités plus petites, des blocs donc. Et c'est de là que l'immeuble tire son nom. Maintenant, on va pénétrer dans notre grande exposition. Elle s'appelle Aware. Cette exposition traite du mouvement dans les espaces, dans une confrontation individuelle, et donc vivre une expérience qui s'adresse à vos sens, à vos yeux, mais aussi à votre pesanteur, à votre apesanteur, peut-être aussi à vos yeux. Comme vous pouvez l'entendre, il y a une bande-son ici. C'est un groupe de musiciens danois expérimentaux qui ont créé une musique pour cette exposition. On va la traverser. Comme vous pouvez voir ici, l'espace est essentiellement cubique, mais il est dissous en de nombreuses courbes et de lumière. Vous avez donc à la fois la lumière, le son, les couleurs, et ça crée une expérience spéciale qui évoque en partie un mouvement en apesanteur et qui nous permet de constater que les espaces ne sont pas toujours ce que l'on pense qu'ils sont. Et si on continue, vous voyez ici que même un immeuble peut devenir en apesanteur. Nos auditeurs peuvent peut-être percevoir que l'acoustique a changé ici. C'est voulu. Il y a une autre musique ici. Il y a d'immenses projections d'images et des créations spatiales sur lesquelles les bâtiments que vous voyez ici et qui viennent sur d'immenses écrans vous accompagnent au sein de l'exposition. Ils créent une sorte de doux canal spatial qui vous guide le long des murs qui ne sont pas tout à fait droits, mais qui sont hors de vue. Ça fait partie de cette plongée qui vous montre que les espaces peuvent changer votre expérience corporelle. Et ici, venant d'une sorte d'apesanteur, ce qui introduit une certaine confusion, soudainement, on voit presque une caverne ou un île. Ici, on a du bois de pin, on a envie de le toucher, il y a une température agréable, on a envie de s'asseoir et on se sent presque enlacé par l'architecture. Soudainement, au lieu de nous traîner via des espaces, l'architecture nous invite à nous asseoir et à se relaxer en se sentant entourés. Nous, les humains, nous habitons majoritairement en ville et là, nous marchons le long de très longues façades inclinées.
Et nous avons cette expérience que les choses les plus lourdes au monde que l'homme a créées, les gros buildings, les gratte-ciels, ce sont donc les choses les plus lourdes au monde, mais souvent nous essayons de les faire légères, comme si elles ne pesaient rien, de verre et d'acier, et elles deviennent des nuages qui bougent dans le ciel en apesanteur. Et ça n'est pas si différent de ce que les architectes vénitiens ou byzantins faisaient il y a 1000 ou 2000 ans en mettant des tapis que les façades, en dématérialisant ainsi le poids de l'architecture. Mais je veux vous montrer un autre espace ici, qui fait partie de l'expo Aware, parce qu'ici, 3XN, les architectes de l'expo sont encore plus radicaux en montrant le cœur de l'architecture. Of one of their core, and you could call it signature elements. Ils font des escaliers, et là, on se tient en face d'une sorte de salle au miroir. C'est une salle tapissée de miroirs, mais comme vous pouvez le voir, il y a au milieu un élément central, qui est un escalier qui est minuscule par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils utilisent l'escalier comme un outil dans leur architecture pour créer des échanges sociaux. Et ici, ils souhaitent donner accès aux visiteurs à certains infinis de l'espace, mais aussi au potentiel d'un escalier, parce qu'ils font toujours des escaliers dans tous les immeubles sur lesquels ils travaillent dans le monde entier. Des escaliers qui ne connectent pas seulement avec le sol, mais aussi les gens entre eux.
They always work with stairs at not as something that not only connects two floors, obviously, but really connects people.
Dans cette expo, on n'a pas de long texte explicatif. Tout est basé sur faire l'expérience de l'architecture. On est sorti de l'expo Aware et vous pouvez voir ici. Il y a un immense espace au milieu de l'édifice et c'est un espace assez peu commun. La plupart des gens, curateurs, architectes, artistes, préféreraient une sorte de boîte blanche sans aucun dérangement venant de l'extérieur. Avec Colas et Hélène van Loon, on a réfléchi autrement. Ici, c'est un centre pour l'architecture et ce n'est pas un centre d'art. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, il s'agit d'être dans le monde, comme l'est l'architecture. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont des gens qui travaillent dans leurs bureaux, et ces bureaux, ils ont des façades qui donnent et sont en contact visuel avec nos expositions principales. Et ça veut dire qu'on voit des gens bouger, qu'on voit la vie extérieure, et dans les espaces eux-mêmes, les gens bougent. Il y a ici notre salle de conférence, qui peut comprendre jusqu'à 250 personnes. Ils peuvent faire ici leur pause et descendre ces grands escaliers-là. C'est comme si une ville entière était contenue dans cet édifice. Cet espace fait presque 100 mètres carrés. C'est le plus grand dans tout le bâtiment et il est plein centre de l'édifice. On peut y voir la lumière du jour. On peut en faire une boîte blanche, une boîte noire et c'est très flexible. Mais c'est aussi une sorte de plaza sur lequel les gens peuvent s'asseoir et débattre, dialoguer.
Moi, j'aimerais revenir sur un terme qui est la transparence. Quand on traverse cette ville, on est fasciné parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui ont d'immenses fenêtres, qui regardent vers l'extérieur, mais qui sont également regardés depuis l'extérieur.
Je pense que vous pouvez argumenter que la transparence de ce bâtiment, qui est peu commune, représente un défi du point de vue du curateur. Mais vous pouvez aussi considérer que cette transparence fait partie intégrante de l'expérience. Vous pouvez sentir que vous êtes en contact avec la vie de la cité.
An exterior experience, in the sense that you actually feel that you are in contact with the life of the city.
Est-ce qu'on peut dire que le hygge, donc le bien vivre, ça concerne son intérieur, mais également l'extérieur, la ville elle-même?
Oui, certains pourraient dire que ce hygge, c'est être en famille à deux ou trois ou quatre dans une petite pièce, votre salon, par exemple. Mais ce n'est pas vrai. C'est plus près de ce que vous disiez. Le hygge, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Et donc, C'est ce qu'on voit dans les espaces ici. Et c'est possible dans une petite ville. C'est qu'on peut avoir un dîner entre voisins, dans la rue. Peut-être qu'en tant que Français, Parisien, vous êtes habitué grâce au climat, vous avez des tables en extérieur dans les restaurants, mais ça reste en relation avec le restaurant. Ici, ces tables, elles sont plus en relation avec la famille, les amis, les voisins d'immeuble. Et donc, on a beaucoup de voisinage. Et le voisinage, c'est une sorte de véhicule pour le hygge. Ou, à l'inverse, peut-être que le hygge crée de la proximité, on est ainsi ensemble et on peut l'appeler un vivre ensemble.
Homo Urbanicus sur Aligre FM 93.1 et sur aligrefm.org.
Chère à nos cœurs de marins, tout le long des quais, à l'abri des grains, nous boirons jusqu'à demain. Aux filles des eaux, jolies Copenhague, chère à nos cœurs de marins, quand on t'a quitté, vers toi l'on revient, chantant Copenhague, filles des eaux si jolies, tu es notre vie. C'est toi dans le bleu du ciel, nimbé d'or et de soleil, font briller leurs vivantes couleurs et semblent dire aux voyageurs, c'est ici la cité du bonheur. Fille des eaux, jolie Copenhague, chère à nos cœurs de marins, tout le long des quais, à l'abri des grains, nous boirons jusqu'à demain. Ô fille des eaux, jolie Copenhague, chère à nos cœurs de marins, quand on t'a quitté, vers toi l'on revient, chantant Copenhague, fille des eaux si jolies, tu es notre vie.
FM 93.1.
Nous sommes toujours à Copenhague, ville maritime, et à la suite de notre visite du Centre danois d'architecture, comme vous l'entendez, nous sommes allés découvrir l'immense richesse du bâti moderne de la ville vue de l'eau. Vous entendez sous ma voix le bruit des machines de la péniche sur laquelle nous nous sommes embarqués. Et sous réserve d'avoir un peu potassé la liste des constructions emblématiques anciennes et modernes et de faire abstraction des commentaires ineptes du guide à bord, la visite vaut vraiment la peine. Mais retournons au Centre danois d'architecture en compagnie de son directeur. On l'entend au son, on est dans une salle très feutrée. Et on va un peu parler de l'histoire de cette architecture.
Quelques points brefs. Retour en 1754. Notre roi, très impressionné par Louis XV en France, a émis le désir de créer une société moderne. Et ainsi, il a créé une Académie nationale des arts en 1754. Et c'est à partir de cette date qu'au Danemark, on a décidé de considérer l'architecture comme une forme d'art. L'architecture ne devait pas seulement résoudre des problèmes, elle devait être utilisée pour répondre à certaines fonctions. Tout ce qui était extérieur ou intérieur, et même la tasse de café que nous avons là, tout ça, ça raconte comment nous utilisons l'espace. Mais ça doit aussi être résistant et tenir sur la longue durée. Ça doit fonctionner socialement, mais aussi économiquement. Mais surtout, et ça, c'est là l'important, ça doit être une expression artistique. Pour le Danemark, qui est un si petit pays de 5 à 6 millions d'habitants, on est de la taille de Hambourg parce qu'on l'a décidé et on s'y tient. Ça illustre la manière dont on conçoit et on réalise notre société. Et vous le savez peut-être, on a décidé dans les années 1930, juste avant que les régimes nazis n'envahissent l'Europe, on a décidé de créer une société du bien-être. Et maintenant arrive un mélange un peu inhabituel entre la pensée architecturale, qui considère l'architecture comme une forme d'art, et le programme de bien-être. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de faire de nos infrastructures une forme d'art, ce qui était un peu inhabituel et sûrement possible uniquement dans un petit pays comme la Hollande et le Danemark. Et c'est pour cette raison que les architectes ont créé, par exemple, un habitat social fort. 20% de la population danoise vit dans un logement social et ils sont tous dessinés par des architectes. Ce n'est pas quelque chose qui a été conçu par un promoteur, non. Ça a été dessiné par un architecte. Nos écoles, nos maisons de retraite, nos hôpitaux, tout ça est conçu par des architectes au Danemark. Il n'y a pas un programme public qui n'a pas été conçu par de bons architectes, des architectes artistes. Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est un art pour tous, comme on dit. Il n'y a pas que les plus riches qui peuvent avoir un bon architecte. C'est en fait une part de notre conception de la société. Et c'est tout autant une partie de l'ADN du Danemark, mais c'est aussi l'identité des Danois que cette qualité dans notre environnement esthétique. Au Danemark, on travaille beaucoup et on paye beaucoup de taxes. Mais en contrepartie, vous bénéficiez gratuitement de cette société du bien-être. Ça veut dire que si vous avez besoin d'une crèche dans la partie la plus reculée du pays, on a de l'architecture dans tout le pays, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De 1945 à 1985, on a construit autant de mètres carrés que les 2000 années précédentes. Ça veut dire qu'on a utilisé l'architecture comme le principal moteur de notre société du bien-être.
Est-ce que ça signifie que l'architecture danoise, elle est boostée par les commandes publiques ?
Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça a commencé. Vous n'avez pas idée de combien on a dépensé en architecture et on continue. On fait tout le temps des protos et oui, c'est parce que ça fait partie de notre programme national et que l'architecture y était liée qu'on a créé l'infrastructure pour ça. Aujourd'hui, et on le montre dans l'exposition ici, le monde a réalisé que ce petit pays inconnu faisait tout ça, et soudainement, on a été connu dans le monde entier. Ça a commencé avec Johann Husson et l'opéra de Sydney, que de nombreuses personnes connaissent sûrement, mais ça a aussi commencé à la même époque avec une chaise sur laquelle Richard Nixon et Kennedy se sont assis à la télévision devant le monde entier pendant le débat des présidentielles en 1960. Et soudainement, tout le monde s'est demandé « C'est quoi cette chaise sur laquelle il s'assoit ?» Et c'était une chaise danoise et tout le monde a été intéressé sur ce qui se passait dans ce pays. Et ce qu'ils ont vu, c'est cette société du bien-être qui met l'architecture au cœur de ce programme de coexistence entre les gens.
À Paris, on a eu le baron Haussmann qui a complètement transformé la ville au 19e siècle. Et vous, votre baron Haussmann, ça a été qui à Copenhague ?
C'est une question très intelligente. La réponse brève, ce serait Christian IV, qui vivait en 1540-1560. En fait, il voulait être architecte et il a bâti de nombreux édifices, l'un d'eux étant la Tour Ronde, qui est connue dans le monde entier, parce que c'est une sorte de serpent dans l'espace, pointant vers le ciel. Mais en comparant avec Haussmann, qui a eu une importance énorme dans la pensée des espaces extérieurs, particulièrement à Paris, c'est plus une large communauté d'architectes, pas mal inspirée par Le Corbusier, qui conçoivent une cité centrée sur des habitants, sur ses habitants, à la différence de Haussmann, qui était très orienté vers le pouvoir et vers l'accessibilité et la circulation.
Really orientated towards power and access, accessibility and traffic.
On a créé nos cités à l'échelle du piéton, des vélos, des gens circulant en vélo tous les jours, plutôt que de circuler en voiture.
Rather than driving in cars.
Le Corbusier, il avait son modulor. Il y avait un petit modulor et un grand modulor pour définir l'échelle de ses appartements et de ses immeubles. C'est quoi votre modulor à vous, à Copenhague et au Danemark?
So the point is, ça n'est pas spécialement métrique, c'est plutôt spatial. Ça va de 1 mm à 200 mètres et c'est souple. Ça n'est pas systématique. Parce que le corps est de forme anthropométrique et on ne se déplace pas dans des boîtes et on ne tourne pas à angle droit et ainsi de suite. Je pense qu'on pourrait prétendre que notre moduleur à nous, c'est le contact visuel avec l'autre. Corbusier était d'ailleurs très préoccupé par la hauteur du regard à 1,60 m dans son moduleur, mais peut-être qu'on était plus préoccupé par le contact avec autrui que de trouver un système.
Homo Urbanicus sur Aligre FM 93.1 et sur aligrefm.org.
Sirène de salle de bain, domptesse de canard en plastique. Il faudrait bien que tu m'expliques pourquoi je me sens si bien.
Tu es en train de tomber amoureux de moi, comme tous les hommes avant toi qui ont entendu ma voix.
Oh ma petite Lula, si tu savais comment je me suis fait briser l'hiver dernier. Sans plus de joie, les émois et moi, c'est terminé tout ça, je suis immunisé.
Mon cher Gaspard, joli Gaspard, je suis une sirène, sirène, sirène. Ramène-moi avant qu'il ne soit trop tard.
Oula oula loula o. C'est pas dans mon appartelier que je risque de me noyer. Je vais commencer par te soigner et te faire du poisson pané.
Il n'est pas né le poisson qui me résistera. Même les grands requins blancs. Cher Gaspard, joli Gaspard, je suis une sirène, sirène, sirène. Prends garde à toi, prends garde à moi, je suis une sirène à Paris.
Oula oh lola, oula oula lola oh. Oula oh lola, oula oula lola oh. Oula oh lola, oula oula.
Oula, 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 oula,
Petite sirène égale Copenhague. Et oui, c'est à Copenhague que nous nous trouvons. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Homo Urbanicus, c'est votre magazine d'architecture et d'urbanisme. Et en compagnie de Kent Martinussen, le directeur du Centre architectural danois, nous évoquons l'histoire de la capitale de son pays, la capitale danoise, qui depuis 2023 et pour 3 ans a été déclarée capitale mondiale de l'architecture. Alors parmi les outils qui nous ont permis de découvrir Copenhague avec des yeux d'amateur d'une architecture non seulement historique, mais aussi en évolution, on peut signaler une application mise à disposition par le même DAC, le même centre architectural danois que nous visitons. On va mettre en ligne le lien qui mènera vers cette application en question. Et même si vous n'allez pas à Copenhague, ça vous permettra de rêver sur des bâtiments dont on va vous parler tout de suite. Allez, on retourne à Copenhague avec Kent Martinussen. On survole quelques-unes des dates clés de l'histoire de l'architecture au Danemark. En revenant vers l'histoire de l'architecture, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples emblématiques de l'histoire de l'architecture à Copenhague ?
Amalienborg and the Frederikstad.
Amalienborg et Frederikstad, qui est l'endroit où le roi vit. C'est la première fois que la cour a dit, inspirée par la cour française, nous voulons être une société moderne. Nous étions alors des paysans. On a créé une académie et on a commencé à éduquer nos architectes. On a ensuite importé beaucoup d'idées stylistiques, en particulier de Hollande et de France. Baroque, rococo, l'historicisme, et peut-être aussi depuis l'Italie, notre hôtel de ville ici à Copenhague, très inspiré de la mairie de Sienne. Mais quand vous parlez d'étapes marquantes, je dirais qu'en raison des épidémies, nous avons commencé très tôt à réaliser qu'il y avait les élites et les gens ordinaires, sûrement inspirés par la Révolution française et Karl Marx, entre autres, et que les architectes pouvaient faire quelque chose pour les hommes ordinaires. Il y a donc une partie ancienne de la ville, datant des grandes épidémies des années 1850, où des milliers de personnes sont mortes, bien plus que pendant le Covid. Oui, c'était le choléra. Le choléra nous a sensibilisés aux grandes différences dans la société, et ça nous a mené aux idées de démocratie, mais aussi à réfléchir à une société plus égalitaire. Partant de là, il est devenu de plus en plus évident que le cœur de l'architecture au Danemark impliquait une pensée commune. Il ne s'agissait pas d'être grandiose, et donc on n'a pas de boulevard au Danemark, à Copenhague. Vous ne pouvez pas trouver de grands axes de circulation, excepté celui qui mène au château, qui était pour le roi, et qui ne mesure que 200 mètres, juste pour comparer avec les Champs-Élysées. Donc nous n'avons pas un seul axe dans la ville de Copenhague, n'est-ce pas étrange ?
Pour revenir à la partie historique, 1897, c'est l'édification de la Glyptothèque.
La Glyptothèque, c'est vraiment un bâtiment superbe. Je recommande d'y aller. Et ce n'est pas seulement superbe depuis l'extérieur. Ça montre vraiment comment on est allé loin dans la construction en briques. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'intérieur et le contenu, et aussi la raison de son édification. L'homme qui a inventé la brasserie ici au Danemark, Carlsberg, Jacobsen, de son nom, était un industriel très brillant. Il a construit des usines en dehors de Copenhague, mais il a ensuite dépensé tout son argent dans une fondation en faisant quelque chose de tout à fait spécial, en considérant que l'on avait besoin d'éduquer la population pour qu'elle prenne part à la démocratie. Ce n'est qu'en 1915 que les femmes ont obtenu le droit de vote au Danemark. Donc nous avons une démocratie complète qu'en 1915 au Danemark, assez tard en fait. Lui et d'autres élites étaient parfaitement conscients qu'il fallait comprendre la grande histoire de l'Europe. Cette Glyptothèque a donc été créée, qui expose toute l'histoire grecque, égyptienne, italienne, française, jusqu'à l'époque moderne de l'impressionnisme.
Italy, France, and so forth, even to the modern times with the impressionists.
C'est donc une sorte d'immense bâtiment dédié à l'éducation. Et au milieu, il y a une palmeraie. C'est vraiment magnifique. Pour nous, c'est comme voyager dans le sud, en même temps que l'on visite différentes cultures.
Si on saute dans l'histoire, en 1960, ce sont les premières édifications des bâtiments de l'aéroport de Copenhague, Kastrup.
En fait, vous pourriez démarrer en 1930, parce qu'il y avait un architecte danois, Willem Lauritzen, qui était créateur de meubles superbes. C'est lui qui a dessiné le premier programme emblématique d'un aéroport public au Danemark. Jusqu'aux années 1920, les aéroports étaient destinés à très peu de gens et principalement aux militaires. Mais ensuite, les vols modernes sont arrivés et Lauritzen a dessiné cet aéroport superbe à partir de 1931. C'est une splendeur d'architecture moderne. Et 60 ans plus tard, il a dessiné le terminal auquel vous faites allusion, le plus grand aéroport. Et il y a 10 ou 15 ans, ils ont attaqué la phase 3. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a une longue histoire dans la création de cet aéroport à dimension humaine. Il faut dire qu'à l'époque de sa première création, l'idée de grimper dans un avion était abstraite, presque étrange, dangereuse. C'était considéré comme aliénant pour le corps humain. Donc l'idée, ça a été de créer un aéroport très humain. Et cette idée s'est développée avec les années. Et ce que vous voyez, c'est que Copenhague a été le premier aéroport à avoir un parquet en bois. Où est-ce que vous pouvez trouver ça ailleurs? C'est le seul aéroport, et on insiste là-dessus, dans lequel on se sent presque comme à la maison. On voit donc en ce moment une demande pour de l'architecture made in Denmark. Pourquoi ça? D'abord parce qu'elle est orientée vers les gens, ensuite parce qu'elle est durable, et enfin parce qu'elle a une expression forte, parce qu'elle est pensée comme une expression artistique, et c'est une combinaison forte.
D'autres réalisations architecturales à côté de laquelle je suis complètement passé, que vous m'avez signalé, ça s'appelle Amagerbakke.
Which means the hill on Amager.
La colline d'Amager. Amager, c'est un quartier de la ville qui est totalement plate. C'est aussi là où se trouve l'aéroport. C'est dessiné par Bjarke Ingels, l'architecte mondialement connu. Et ce qui est intéressant concernant ce bâtiment, c'est que c'est en fait une usine qui retraite et incinère tous nos déchets, ce qui nous permet d'obtenir de l'énergie. Et au lieu de juste construire cette usine en lui ajoutant une façade en aluminium, Bjarke Ingels a eu une idée. Et c'est une partie de notre pensée durable. Il s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un centre ouvert à un large public? Alors, non seulement il a construit une usine, mais en plus, il a créé un centre récréatif dans lequel vous pouvez grimper à pied ou en ascenseur jusqu'en haut de l'édifice. Vous pouvez voir toute la ligne des immeubles de Copenhague et vous pouvez vous élancer sur la piste de ski qui vous mènera tout en bas. À n'importe quel moment de l'année, mais particulièrement en hiver, bien sûr. C'est encore un moyen de combiner une usine avec une expérience sensitive en créant quelque chose qui ait du sens, celui d'organiser la cité de manière durable.
Je vous propose de terminer avec quelque chose d'emblématique pour tous les cyclistes. C'est ce que vous appelez le cykelslangen, le serpent pour les vélos.
C'est une infrastructure, c'est une sorte d'autoroute à vélo. Et elle est intéressante pour deux raisons. La première, c'est que l'on essaye d'avoir le maximum de gens qui se déplacent à vélo pour aller travailler, vaquer à leurs occupations, parce que c'est sain, on prend l'air, on se bouge, mais aussi parce qu'on se rencontre au lieu de rester assis dans sa voiture. C'est une part du développement durable de notre ville et on veut que Copenhague soit neutre en CO2 dans quelques années. Donc, on travaille là-dessus, mais c'est aussi la preuve que l'on prend les infrastructures au sérieux comme une problématique de design. Ça doit donc être beau, car le beau crée le besoin et on veut en faire partie. Le serpent à vélo, c'est donc une sorte de grande route orange, qui serpente au-dessus du sol et qui est un moyen plus simple de se rendre d'un point A à un point B. Mais la forme de serpent introduit un peu de plaisir dans la conduite avec vos enfants et au final, ça crée une sorte de monument du développement durable, un monument pour la santé.
A monument for health. Kent Martinussen, vous êtes donc le CEO du centre architectural danois ici à Copenhague. En tant qu'habitant de Copenhague et travaillant ici, si vous aviez à définir votre ville, quels sont les mots que vous emploieriez?
I think it would be trust, confiance.
Ce serait le mot confiance parmi les gens dans l'espace public. Ça n'a rien à voir avec un design spécifique, mais ça dessine la manière dont nous nous comportons tous ensemble et dont nous sommes dépendants de notre environnement architectural. Tout ça explique pourquoi nous avons tant confiance les uns dans les autres. Nous nous sentons non seulement bien, mais aussi en sécurité, et en plus, on trouve facile d'être tous ensemble dans les espaces publics. De l'extérieur, on pourrait parler de easy living. C'est tellement facile de vivre ici à Copenhague, avec sa petite famille, deux enfants, et donc c'est la vie facile, en confiance.
Rappelons à Kent Martinussen que Copenhague a été nommée en 2023 par l'UNESCO capitale mondiale de l'architecture sous proposition de l'Union internationale des architectes. Et il me reste à vous remercier. Merci. Merci
vous beaucoup. Écoutez Aligre FM 93.1.
Sur Aligre FM 93.1, Homo Urbanicus vous fait visiter Copenhague. Nous nous sommes réveillés avec un triste spectacle. C'est par ces mots que le roi du Danemark, Frédéric X, a réagi le 16 avril 2024 à l'annonce de l'incendie de la tour de la vieille bourse de Copenhague. Commandé par le roi Christian IV, ce bâtiment remarquable avait été construit entre 1619 et 1640. On parlait tout à l'heure de cet édifice avec le directeur du centre architectural danois. C'était quelques jours avant le drame. Pour des raisons encore inconnues, ce bâtiment, la tour de la Bourse, donc, qui abritait non seulement la chambre de commerce, mais aussi une importante collection d'œuvres d'art, s'était embrasé vers 7h30 ce 16 avril, provoquant la chute de sa flèche. On assistait ainsi à une sorte de redite sinistre de l'incendie qui avait endommagé Notre-Dame 5 ans pile auparavant. On revient sur cet événement avec vous, Philippe Poindron, guide touristique et fin connaisseur de l'Europe du Nord. Cet incendie, c'est une perte inestimable pour la capitale danoise.
Oui, c'est un bâtiment qui était essentiel au niveau architectural. Comme vous le dites, c'est la tour l'essentiel. C'est un bâtiment comme beaucoup de bâtiments de la même époque, donc en briques et pierres, de style néerlandais. Le bâtiment de la Bourse a été construit entre 1590 et 1640. Donc on est à ce qu'on appellerait nous la fin de la Renaissance et le début de l'époque baroque en fait. Et en style néerlandais, comme les églises, la plupart des églises ou des bâtiments de Copenhague de cette époque, puisque il y avait très peu d'artistes au Danemark à l'époque, enfin d'artistes danois. Et le souverain Christian IV, qui a donc construit la plupart des très beaux et anciens bâtiments de Copenhague, Christian IV a donc fait toujours appel à des artistes néerlandais, ce qui explique le style. Et donc ce bâtiment, c'est un bâtiment très long. Comme on peut trouver à Amsterdam, hein, c'est un bâtiment en briques et puis les encadrements de fenêtres, les encadrements de portes qui sont sculptés en pierre. Et donc la particularité, c'est d'avoir cette longue tour, cette pointe en fait, qui était incroyable, qui était une réalisation unique pour l'époque, puisqu'elle est constituée de 4 dragons dont les queues s'entremêlent et c'est ce qui forme la tour. Donc en fait, vous imaginez la tour, une pointe, en bas, il y a les têtes des dragons, des 4 dragons, et en fait la tour elle-même, elle est formée par 4 queues, comme des queues de serpent si vous voulez, qui s'enlacent jusqu'au sommet. Alors à l'origine, il est construit, comme son nom l'indique, en bourse. C'était la bourse, la première bourse de Copenhague. Et puis, au 19e, la bourse, avec l'importance économique, a dû déménager dans un autre bâtiment. Et en 1857, en fait, le bâtiment a cessé d'être une bourse et il a été acheté, en fait, par une association de marchands à l'époque pour réinstaller leur chambre de commerce de manière à protéger le bâtiment, à ce qu'il ne soit pas détruit, modernisé ou quoi que ce soit. Et en fait, encore aujourd'hui, c'était la chambre de commerce à Copenhague. Le bâtiment a donc eu 2 fonctions, de sa construction en 1857, la bourse, et de 57 à aujourd'hui, la chambre de commerce.
Alors après l'incendie de Notre-Dame, l'incendie de la tour de l'ancienne bourse de Copenhague maintenant, le parallèle entre les deux drames, vous le trouvez justifié? Cet incendie, il a créé le même choc que l'incendie de ce qui était le symbole, presque le symbole de Paris, Notre-Dame de Paris?
Il a eu un retentissement vraiment important, parce que c'est vraiment l'un des symboles de Copenhague. Mais de là à comparer à Notre-Dame, non. Déjà, la position n'est pas tout à fait la même. Notre-Dame, on ne peut pas la rater dans Paris. Hein. Il suffit d'être sur les quais de la Seine. Mais effectivement, cette fameuse pointe avec ses dragons, c'est vraiment dans le cœur, dans l'esprit de tous les Danois. Pas autant, par exemple, que la petite sirène, mais quelque part... Un des fleurons de la ville de Copenhague. Donc évidemment, là, tout le monde a été très, très choqué. Surtout que ce bâtiment a été très, très souvent représenté dans la peinture. Pour des tableaux historiques, par exemple, liés à des événements, puisque l'un des palais royaux se trouve juste à côté. Donc le palais royal actuel, Christiansborg, a été achevé de construction en 1928, mais parce qu'il y a eu un incendie dans les années 1880, mais il y a toujours eu le palais principal ici, donc avec la salle du trône, etc. Et au 17e, quand la monarchie absolue a été instituée au Danemark, tous les défilés se passaient sur la place qui est devant cette bourse. Donc, en fin de compte, vous avez plein de tableaux historiques représentant les défilés, les couronnements, etc., où on voit en toile de fond cette bourse. D'où viendront les fonds ça, là, je ne peux pas vous répondre. Mais de toute manière, évidemment qu'ils vont la reconstruire. De toute manière, ce n'est pas la première fois qu'on a un bâtiment incendié à Copenhague, surtout en 1807 grâce aux Britanniques. On dit d'ailleurs que le bombardement de Copenhague en 1807 c'est la première attaque brutale contre une population. Copenhague est très intéressant pour ce qui est des tours. Vous avez une des églises de Copenhague construite par Christian IV à nouveau, mais dont la tour a été réalisée au XVIIIe siècle. Et la tour est entièrement en bois et c'est un escalier extérieur. Et les tours des églises, par exemple, sont vraiment, vraiment particulières à Copenhague. C'est des chefs-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance, dont la plus incroyable, on peut le dire, c'était cette tour.
Avec vous, Philippe Poindron, merci. On a vu que Copenhague a été aussi souvent considéré par les métropoles comme parfait modèle et laboratoire du vélo et de la douceur de vivre en Europe. Paris notamment, et notamment sa mère, n'a de cesse de s'y référer. Alors on l'a vu tout au long de cette interview, cette douceur, elle se fait au prix de sacrifices fiscaux et donc financiers de ses habitants. Et on peut dire que ce qui est possible dans une ville très étendue et deux fois moins peuplée que la capitale française n'est peut-être pas transposable à la très dense Paris. Alors cette émission n'est en aucun cas un guide touristique, mais si on n'avait qu'un conseil à vous donner ici pour une visite à Copenhague, laissez tomber la petite sirène et allez voir du côté de l'architecture, vous en apprendrez beaucoup plus sur le Danemark. Fin de cette nouvelle édition d'Homo Urbanicus que nous avons aujourd'hui consacrée à Copenhague à l'occasion de sa désignation comme capitale mondiale de l'architecture par l'UNESCO sur proposition de l'Union internationale des architectes. Merci à tous ceux qui ont participé à cette nouvelle édition. Merci donc à Kent Martinussen qui nous a guidés avec gentillesse et passion dans l'histoire et l'architecture de son pays et dans son centre d'architecture danois dont il est le directeur. Merci également à Philippe Poindron de Le Métier de faire découvrir aux touristes des villes et notamment les villes nordiques. Il nous a éclairé sur l'importance symbolique de la tour de l'ancienne bourse qui a pris feu en avril dernier. Mais je ne suis pas seul pour préparer et réaliser cette émission, alors je vais remercier tous celles et tous ceux qui m'ont aidé aujourd'hui. Je vais commencer par Charlotte Poindron qui a effectué le pré-montage des interviews. Merci à toi Charlotte. Merci à Jérôme Vaquet qui a posé sa voix de comédien sur celle de notre invité pour effectuer le doublage en français. Et comme d'habitude, ma fidèle équipe était là, Pierre Demkoff qui m'a proposé toute une liste de musiques et de chansons parmi lesquelles j'ai dû effectuer des choix cruels. Pascal Dutertre n'était pas présent aujourd'hui, mais je le remercie de sa présence fidèle dans notre équipe. Enfin, des remerciements et pas des moindres à Enrico Mastrogiovanni qui a aujourd'hui mixé notre émission. Vous retrouverez ce programme sur le site de la radio aligrefm.org. Il sera accompagné des liens menant aux activités de nos divers intervenants. N'oubliez pas, il y a cette fameuse appli dont on va mettre le lien sur le site qui vous permet de visiter virtuellement toutes les créations architecturales modernes de cette ville. Alors on se retrouvera très bientôt. D'ici là, petite sirène ou gros poisson, soyons tous des homo urbanicus.